Bonsoir, vous êtes sur RFPP 106.3. Il est 20h30, c'est l'heure de Zoom Écologie. Ce soir, nous parlons de l'accident de Fukushima, survenu il y a bientôt un an, mais dont nous avons à peine commencé à prendre la mesure, ou les mesures. Pour parler de cette actualité au long cours, nous avons avec nous Colline Kobayashi. Donc vous êtes artiste, un intellectuel japonais, mais vous vivez en France depuis de longues années, où vous militez notamment contre le nucléaire. Et vous avez été aussi un des premiers journalistes à dénoncer l'ampleur de la catastrophe et la désinformation au Japon. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous avons également David Boalé, donc, qui est physicien nucléaire, qui est expert indépendant dans le domaine de la radioactivité, qui est surtout président de l'Association pour le contrôle de la radioactivité à l'Ouest, donc l'ACRO, qui a été créée en 1986 en réaction aux mensonges d'État sur les retombées de Tchernobyl en France. Donc nous avons le plaisir aussi d'accueillir David en tant qu'expert de toutes ces questions, mais aussi en tant qu'expert qui a un pied au Japon, parce qu'il s'y rend régulièrement. Il connaît très bien le contexte japonais, il parle couramment le japonais. Voilà.
Bonsoir.
Donc, avant de revenir sur Fukushima, je voulais vous lire un petit témoignage sur la gestion de Tchernobyl. Donc, c'est un extrait de la supplication de Svetlana Alexievitch. 10 ans ont passé. J'aurais vraiment l'impression que rien de tout cela n'était arrivé si je n'étais pas tombée malade. Il faut servir la patrie, c'est une cause sacrée. J'ai reçu du linge de corps, des chaussettes russes, des bottes, des épaulettes, un calot, un pantalon, une vareuse, une ceinture et un sac à vêtements. Puis en route, on m'a affecté à un camion Ben. Je transportais du béton. Nous étions tous jeunes, célibataires. Nous avions foi en notre étoile et ne portions pas nos respirateurs. Un conducteur seulement, un homme âgé, portait toujours son masque. Pas nous. Les types du contrôle routier non plus. Nous, au moins, nous travaillons dans les cabines, alors qu'eux restaient dehors à respirer la poussière radioactive 8 heures par jour. Tout le monde était bien payé. 3 fois le salaire mensuel, plus les frais de mission. Et puis on buvait. Vous savez, la vodka, ça aide. Ça enlève le stress. Il y avait bien une raison si, pendant la guerre, on distribuait aux soldats ce fameux verre de vodka avant l'attaque. Ne mentionnez pas trop les miracles de l'héroïsme soviétique. Bien sûr, il y en a eu quelques-uns, mais avant tout, ce qu'on voyait, c'était l'incurie et le désordre. Et après seulement, les miracles. Boucher de sa poitrine l'embrasure d'un nid de mitrailleuse. Mais personne ne précise qu'il n'y avait pas eu besoin de donner un tel ordre. Nous, on nous jetait comme du sable sur le réacteur. Chaque jour, dans le journal mural, baptisé « Journal de combat », on écrivait « Les gens travaillent avec courage et abnégation. Nous tiendrons et nous vaincrons ». Pour cet exploit, j'ai reçu 1000 roubles et un diplôme d'honneur. Donc à Tchernobyl, l'URSS, qui se préparait davantage à la guerre atomique, a envoyé ses bataillons de soldats pour lutter contre la radioactivité. Mais à Fukushima, on est dans un contexte bien différent de libéralisme avancé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la façon dont est gérée la catastrophe au quotidien au Japon?
Le problème, c'est qu'au Japon, même y compris toutes les autorités de sûreté nucléaire et les cellules d'urgence, ils n'ont jamais prévu réellement comment il faut gérer un état d'urgence causé par l'accident majeur nucléaire. Ils n'ont été jamais vraiment, vraiment bien préparés. Donc tout a été improvisé. Toutes les réunions de chaque jour depuis le 11 mars, c'était improvisé aussi. Donc il n'y a même pas un compte rendu des réunions. Jusqu'à présent, jusqu'à ce que les élus et des associations réclament le compte rendu de ces réunions, il n'y en a pas. Et donc ça a été tout est improvisé. Même par exemple iode qui ont été distribués, mais seulement une, si je ne me trompe pas, seulement une commune qui a été distribuée, mais sinon la distribution n'a pas été effectuée réellement. Donc tout est comme ça.
Et quels sont les gens qui sont intervenus sur la centrale ?
Alors, je confirme que l'improvisation complète des autorités japonaises face à la catastrophe, et quand les événements arrivaient, on avait l'impression qu'ils les découvraient. Donc, il y a eu quand même fusion de 3 réacteurs nucléaires, des explosions hydrogènes. Et à chaque fois, c'était une surprise, comme s'ils ne s'y attendaient pas, que ça pouvait arriver. Et qu'est-ce qu'on fait suite à chaque événement ? Il fallait réagir, mais au lieu de les penser à l'avance, c'était toujours trop tard. Donc ça, c'est un réel problème. Ni l'exploitant, ni les autorités n'étaient prêtes, n'avaient même imaginé que cette catastrophe était possible. Pour ce qui est des travailleurs du nucléaire au Japon, alors c'est aussi des héros. Donc cet aspect héroïque qu'on retrouve à Tchernobyl est commun au Japon. C'est-à-dire qu'au début, il y avait des taux de radioactivité énormes. C'est-à-dire que la radioactivité arrivait jusqu'en France. On a pu la mesurer en France. Donc il faut voir sur place la centrale. Donc les gens faisaient face à des doses énormes. Il y a eu quand même plusieurs explosions hydrogènes. Il y a eu des gens blessés lors de ces explosions. Donc les personnes qui étaient sur place ont pris des risques énormes. Mmh. Et ils sont restés sur place. Donc il faut leur rendre hommage, parce que sans eux, ça serait pire. Et donc il y a cet aspect héroïque. Et à un moment, le 15 mars, donc le tsunami date du 11 mars, le 15 mars, l'ancien Premier ministre a déclaré à la presse que le président de la compagnie TEPCO a appelé pour dire qu'ils évacuaient complètement la centrale. Il l'abandonnait. Et le Premier ministre a dit, si ça arrive, il n'y a plus de Japon, il n'y a plus de Tokyo. Parce que c'est l'enchaînement infernal. Et il a hurlé en disant, vous n'abandonnez pas la centrale, il faut sacrifier vos gars s'il le faut, mais vous n'abandonnez pas cette centrale.
Parce que finalement, les gens qui travaillaient dans la salle centrale de contrôle de Fukushima Daiichi, ils ont vu, donc petit à petit, donc toutes les indicateurs électroniques, ils s'éteignent de petit à petit, et puis tout est éteint à la fin. Et donc ils se demandaient, qu'est-ce qu'on fait avec cet état ?
Et donc, ils sont restés. Il y a aussi le gouvernement japonais a envoyé l'armée. On a vu à un moment des images d'hélicoptères, mais c'était plus un soutien psychologique pour dire aux gens sur place, vous n'êtes pas seuls, vous avez le pays derrière vous. On envoie l'armée, les pompiers, et on met « lâchez pas ». Donc il y a eu un moment vraiment critique, qui était le 15 mars, et où, à un moment, les patrons à Tokyo voulaient évacuer complètement la centrale. Alors depuis, ils ont dit « non, quand on disait évacuer, c'était pas tout le monde, on voulait laisser quelques personnes clés. Maintenant, c'est la parole du président de Tokyo contre la parole du Premier ministre, et personne ne saura la vérité ». Mais il y a ces deux interprétations-là. Cas, et à un moment, ça a été vraiment critique et ça aurait pu être pire sans cet héroïsme des gens qui sont restés sur place.
C'est les salariés de TEPCO qui sont intervenus
Des salariés, mais aussi des sous-traitants, des gens qui étaient sur place. Il y avait des gens qui étaient sur place déjà. Ouais. Certains ont perdu leur famille dans le tsunami. Ils ne savaient même pas si leurs femmes et enfants étaient encore en vie. Et ils sont quand même restés face à l'adversité. C'était en plein hiver, il y avait de la neige, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait pas de chauffage, ils n'avaient pas de nourriture. Les premiers employés dormaient par terre avec une petite couverture. Ils n'avaient que 2 repas par jour froids. C'était des conditions qui étaient dignes de la guerre au tout début de la catastrophe. Et en plus, on a appris par la suite qu'ils n'avaient pas un dosimètre par personne, parce que les dosimètres étaient dans les sous-sols et ils ont été inondés par le tsunami. Et quand ça s'est su dans la presse, ça a fait un tel scandale que l'exploitant a envoyé des dosimètres et quelques jours après, ils en avaient un par personne. Mais s'il n'y avait pas eu le scandale médiatique, ils n'auraient pas été suivis. Donc la catastrophe a commencé le 11 mars et tout le monde a eu un dosimètre qu'à partir du mois d'avril. Donc la situation au début était vraiment une situation de guerre.
Et quel est le nombre de personnes intervenues officiellement, en fait, dans un premier temps, puis aussi sur le moyen terme ?
Donc au mois de mars, c'est entre 3 et 4 000 personnes. Pareil à peu près au mois d'avril. Là, en février, on est à peu près à 18 000 personnes qui sont passées sur le site. Mais ça inclut les travaux de réaménagement des routes, la remise de l'électricité, l'infirmière. Enfin, c'est à peu près 18 000 personnes passées sur le site actuel.
Et concernant la zone d'évacuation, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur justement le nombre de personnes évacuées ou ceux qui restent maintenant dans des villages ou des bourgs contaminés mais qui ne seront pas évacués ? Et qu'est-ce qui est prévu comme suivi sanitaire ou compensation ?
Alors là, on passe des travailleurs aux populations. Donc pour les populations, elles ont été évacuées d'abord dans un rayon de 2 km par les autorités locales, parce que c'était le rayon des exercices. Et une heure après, le Premier ministre a étendu à 3 km, puis après à 10 km, puis après à 20 km. Et après, entre 20 et 30, il a confiné les gens. Et les rejets massifs ont duré 10 jours. Et donc les gens ont été confinés 10 jours. C'est impossible à survivre. 10 jours enfermés chez soi. Et au bout de 10 jours, ils ont commencé à se dire qu'il faudrait peut-être partir. Et donc il y a eu un moment, les gens enfermés chez eux, fallait les nourrir pendant 10 jours. Et les gens vaillants qui avaient des voitures se sont sauvés. Les gens qui sont restés, c'est les gens qui n'avaient pas les moyens de partir. Et il y a eu un appel du maire de Minami-Soma sur Internet qui a eu un retentissement mondial.
Parce qu'il était abandonné un peu, quoi.
Il était complètement abandonné, il n'avait aucune information et il avait toutes les personnes vulnérables à nourrir, à s'occuper, des gens malades à soigner. Et il n'avait plus d'employés municipaux, il n'avait plus de ravitaillement. Et lui aussi, il est resté. Ce maire est resté, c'est un héros aussi de cette bataille. Et donc ça a été, donc ça c'est pour la zone de confinement. Et après, on s'est rendu compte, enfin rapidement, mais les autorités, un mois après le démarrage de la catastrophe, se sont rendu compte qu'il y avait une contamination massive jusqu'à une cinquantaine de kilomètres. Et ils ont évacué quelques mois après jusqu'à une cinquantaine de kilomètres. Puis après, il y a des points chauds qui, encore au mois d'août, donc presque 6 mois après, 5-6 mois après, il y a eu encore des évacuations au fur et à mesure découvertes de points chauds.
Ce qui était problématique, c'est que normalement, le gouvernement japonais et les autorités de sûreté, ils ont un système de mesures, faire une simulation rapide qui s'appelle Speedy. Ce système de l'ordinateur puissant qui donne tout de suite des schémas et des cartes graphes plus ou moins précis par rapport à la fuite radioactive. Et ce système n'a pas été bien fonctionné, qui n'a pas été bien informé auprès de la population. Donc on ne sait pas quel endroit qui était vraiment très contaminé ou pas. Ce n'est pas forcément 20 km, 30 km de diamètre, mais il y a des taches de léopard un peu partout. Et ça, ce système n'a pas été très bien servi. Ça, c'est un des problèmes majeurs aussi face à l'accident majeur.
On s'est aperçu bien après qu'il y avait des zones contaminées.
Donc, comme Colin a dit, le gouvernement avait développé, après Tchernobyl, un logiciel qui a coûté très cher de pronostic des retombées, donc un logiciel météo, qu'il n'a pas su s'en servir. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas été évacués alors qu'ils étaient dans des zones contaminées. Donc, on a vu un mois après, ils ont été... Et des gens qui étaient dans des zones peu contaminées et qui ont été évacués dans des zones plus contaminées. Et qui étaient dans des centres de secours sans eau, électricité, parce que ça a été coupé par le séisme au début, et qui cuisinaient dehors sous les vents dominants et qui ont subi des doses à ce moment-là. Donc ça, c'est un des scandales. Dans l'autre grand scandale de l'évacuation d'urgence, ça a été l'hôpital de Futaba, où c'est des bus qui sont allés chercher les gens. Il y avait des gens alités qui ne pouvaient pas marcher, et ceux-là ont été abandonnés à l'hôpital. Il y a 90 patients qui sont restés 3 jours sans soins, sans manger. Et il y en a 45 qui sont décédés. Donc l'hôpital d'évacuation de l'hôpital de Futaba a été aussi un des grands drames de cette évacuation. Et après, les personnes faibles qui ont été évacuées dans des gymnases entassés, sans structure médicale, ont souvent eu une mort accélérée. Et donc actuellement, il y a un peu moins de 600 personnes qui sont reconnues officiellement décédées des suites de l'évacuation.
Donc la commune de Futaba se trouve à environ 2,5 km de Fukushima Daiichi. Donc c'est très proche. Donc on voit bien, quand on voit des photos après la visite de l'équipe de Hirokawa Ryuichi, qui est partie avec 5 jeunes photojournalistes, ils ont photographié sur place à Futaba le débordement complet de... panique totale de l'hôpital de Futaba, on voit bien par la photo.
Oui, c'est incroyable. Du coup, en fait, une situation encore ingérable aujourd'hui, parce qu'on ne sait même pas justement quels sont les autres problèmes, les autres zones chaudes qui peuvent surgir et être découvertes. Dans le cas de Tchernobyl aussi, c'était un peu comme ça. On a découvert à posteriori plein d'encore des taches léopard, comme disait tout à l'heure Colline. Comment est-ce qu'on peut justement envisager la suite, par exemple, dans un an, en termes aussi de l'état des réacteurs? On sait que ce n'est pas un accident tout à fait terminé. mener? Comment est-ce que les experts se projettent dans ce sens, y compris pour la situation à venir, les conditions à venir des victimes, en fait?
Là, il y a plein de questions à la fois, donc il va falloir trier parce que autrement. Donc on va commencer par peut-être les réacteurs. Donc il y a eu 3 fusions. Quand on arrête un réacteur nucléaire, le combustible dégage énormément de chaleur. Et si on ne le refroidit pas, il se met à fondre et il peut percer la cuve. Et pour refroidir, il faut de l'eau et des pompes, donc de l'électricité. Et à Fukushima, il y a eu rupture de l'alimentation en eau à cause du tremblement de terre. Et il y a eu rupture de l'électricité à cause du tremblement de terre. Et les diesels de secours qui étaient là ont été noyés par le tsunami. Et donc il y a eu rupture, il n'y avait ni eau ni électricité. Une situation qui n'avait jamais été imaginée dans aucun pays. Même le président de l'autorité de sûreté nucléaire française a dit clairement, on n'a jamais imaginé qu'on puisse perdre à la fois l'eau et l'électricité. Donc c'était une situation complètement inédite. Et ça a entraîné la fusion des trois réacteurs qui étaient en fonctionnement. Il y avait sur les 6 qui en a centrale, il y en avait 3 arrêtés et 3 en fonctionnement. Les 3 en fonctionnement ont fondu. Mmh. Il y a aussi à un moment les piscines dans lesquelles on met le combustible usé, qui elles ne sont pas dans un coffre-fort et qui ont vraiment été menaçantes. Et en particulier celle du réacteur numéro 4, qui a été pas mal endommagée par le séisme et par une explosion hydrogène. Si jamais la piscine se craquait, l'eau se vidait, le combustible se met à fondre et il n'y a pas de couvercle et tout partait dans l'atmosphère. Mmh. Et ce scénario catastrophe a été imaginé par les autorités japonaises et c'était l'évacuation d'une grande partie de Tokyo, jusqu'à 250 km. Ce scénario était gardé secret au tout début, il n'est rendu public que récemment pour ne pas faire paniquer les gens. Mais le Premier ministre avait ce scénario catastrophe entre les mains dès le 25 mars. Donc, heureusement, ça n'a pas eu lieu. Ce scénario catastrophe n'a pas eu lieu. Mais il y a quand même eu fusion de 3 cœurs avec dégagement massif de radioactivité. Donc, les estimations sont... Ça dépend qui fait les calculs, mais c'est entre 10 à 40% de Tchernobyl qui sont allés dans l'atmosphère. Des fuites énormes dans la mer, qui est une situation complètement nouvelle. Et sur ces rejets aériens, il y en a 20% qui est retombé sur le territoire japonais et tout le reste qui est allé vers l'océan. C'est aussi une chance. Par rapport, si la centrale avait été sur l'autre côte de la mer du Japon, sous les vents dominants, c'est le territoire, pas l'océan. Donc c'était une situation favorable. Pour les rejets marins, c'est aussi une situation favorable parce qu'il y a 2 courants marins très puissants. Le Kuroshio, qui est le 2e courant marin au monde après le Gulf Stream, et Oyashio, qui vient du nord, qui se rencontrent à peu près là. Et donc il y a une forte dilution. Et donc la pollution marine aurait pu être pire dans un autre contexte avec une mer moins agitée. Donc ça aussi, c'est une situation plutôt favorable dans ce malheur. Donc ça, c'est un peu la catastrophe. Maintenant, les combustibles, il faut toujours les refroidir parce que dès qu'on arrête, ils refondent et ça repart. Donc TEPCO arrose, ça a fondu, ça a percé la cuve, ça s'est mis au fond étalé dans l'enceinte de confinement, ça a recommencé à ronger le béton jusqu'à une 60aine de centimètres, d'après l'exploitant, les calculs de l'exploitant, c'est même pas des chiffres, c'est des chiffres conservateurs, a priori. Et il faut continuer à arroser. Tout est percé, donc ils arrosent comme sur une cafetière, l'eau contamine au contact du combustible usé, va dans les sous-sols, inonde les sous-sols, ils sont allés jusqu'à 120 000 mètres cubes d'eau dans les sous-sols, qui ont débordé vers la mer, ils repompent cette eau, la décontaminent partiellement, parce qu'il reste beaucoup de strontium, et la réinjectent.
Il devrait l'arroser pendant combien de temps, en fait?
Ah ben là, il y en a pour des dizaines d'années, comme ça. Tant qu'ils ne vont pas rechercher le combustible, il faut l'arroser. Les sous-sols, ils ont été endommagés par le séisme. Il y a des eaux souterraines qui rentrent. Et il y a à peu près entre 200 et 500 mètres cubes d'eau par jour qui pénètrent dans les sous-sols, qui se contaminent au contact avec l'eau. Donc c'est un cycle infernal. Là, récemment, on a eu une augmentation de la température du réacteur numéro 2. Donc, une petite poussée de fièvre. Ils ont augmenté le volume d'eau injectée. Donc, ils ont réussi à enrayer l'augmentation de température. Mais du coup, ils ont l'eau qui va dans les sous-sols. Et le niveau des sous-sols du réacteur numéro 2 monte petit à petit. Alors, c'est des millimètres par heure, mais ils peuvent pas maintenir cette solution à long terme. Les cuves, l'eau décontaminée, elle est partiellement décontaminée. Donc, ils la mettent dans des cuves. Au mois de mars, toutes les cuves sont pleines. Ils n'ont plus d'endroit où les mettre. La partie concentrée, c'est des tonnes de déchets de boue ils n'ont pas de solution non plus. Donc à un moment, TEPCO a dit, cette eau, elle est décontaminée, on va la rejeter en mer. Il y a même un homme politique qui a bu de cette eau à la télévision pour montrer qu'elle n'était pas dangereuse. Sauf qu'ils n'enlèvent pas le strontium. Et donc, elle est fortement contaminée. Donc, évidemment, les populations ont dit non. Et là, ils sont coincés. À partir du mois de mars, ils ne savent plus où mettre l'eau. Et s'ils arrêtent d'arroser, ça refond. Donc, on est quand même dans une situation très fragile. On n'est pas à l'abri d'un deuxième tsunami dans les jours qui viennent. On n'est pas à l'abri d'un séisme de magnitude énorme qui refasse des problèmes. Donc, on est dans une situation qui est excessivement fragile.
Et puis, la période sismique, il est actuellement, paraît-il, d'après les experts, très actif. Et puis, le séisme prévu dans la région sud-est, plus sud par rapport à Tokyo, devant la centrale Hamaoka, était menacé depuis longtemps, depuis ces dernières années. Et puis, ce séisme n'est pas encore eu lieu. Donc, c'est la raison pour laquelle l'ancien Premier ministre Kan Naoto a demandé de fermer la centrale nucléaire de Hamaoka. Et donc, on ne sait pas. Personne ne sait quand ça arrive, les grands séismes. Mais c'était prévu. Par exemple, le numéro d'Asia Japan de janvier de l'année dernière, ils ont prévu cet accident majeur possible.
Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs aspects. Il y a des bombes à retardement dues déjà à l'accident, puis d'autres à venir dans d'autres secteurs, effectivement. Mais est-ce qu'on peut peut-être en dire un mot, justement, à propos de comment est-ce que le Japon en est arrivé là, sachant que tout le monde sait que c'est une des zones les plus sismiques du monde et que, par ailleurs, il y a eu déjà les tragédies de Hiroshima et de Nagasaki. Comment, dans un contexte si précis, si particulier, le Japon a pu se mettre, en fait, à construire 54 réacteurs nucléaires sur une île de cette nature, en fait.
L'histoire de l'installation nucléaire au Japon, historiquement parlant, c'est assez complexe. Évidemment, après Hiroshima et Nagasaki, les Américains ils veulent continuer à faire des essais nucléaires dans l'océan Pacifique. Dans les années 50, ils ont testé milliers de fois des essais nucléaires. Et puis, après Hiroshima et Nagasaki, il y a eu un tabou, il y a une censure d'informations au Japon. Donc, même des irradiés n'avaient pas le droit de parler, de témoigner devant le média. C'était interdit. Donc, pendant longtemps, c'était dans ce tabou. Et puis, dans les années 50, surtout 1954, au moment où un essai nucléaire... De la bombe hydrogène, Bravo, a été testé. Un bateau qui s'appelle Daigo Fukuryu Maru, un bateau de pêche de thon, qui a été extrêmement contaminé, revenu avec du thon contaminé. Et à partir de ce moment-là, que le mouvement anti-nucléaire, notamment par l'appel des femmes de Tokyo, des femmes de foyer, qui se sont réunies, qui ont commencé à faire un mouvement anti-nucléaire, et ça devient mondial. Et les autorités américaines s'inquiétaient beaucoup de ce mouvement anti-nucléaire. Donc, ils ont déclenché tout de suite, disons, en façon très radicale, lancé par le moyen possible, notamment deux premiers ministres de l'époque étaient rachetés par CIA. Monsieur Kishi, Monsieur Sato, deux premiers ministres de l'époque, ils étaient un peu un agent de CIA. Et puis, CIA a réussi à racheter aussi un mania de médias de l'époque, Shōriki Matsutaro. C'est un grand patron de journal Yomiuri et TV Yomiuri, devenu Nippon Television. Ils ont donc manipulé pour que le discours du président américain « Atom for Peace » doit être bien installé au Japon. Et donc, ils ont fait une campagne de publicité pour le nucléaire, pour la paix. Alors, Shōriki avait reçu un soutien énorme pour que sa télévision se développe aussi et que... même Shōriki a réussi à faire une grande exposition au centre de documentation de Hiroshima dédié à la bombe atomique de Hiroshima. Donc, ils ont fait une campagne extrêmement forte. Et puis, de côté du monde politique japonais, ces deux premiers ministres, avec Nakasone, qui était un des pivots importants de l'époque, qui voulait créer un armement nucléaire au Japon, au moins avoir une technologie nucléaire dès que ça devient nécessaire, le Japon puisse fabriquer dans quelques mois ou quelques années tout de suite une bombe nucléaire. Cette logique, cette idéologie, ça continue jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle le Japon s'intéresse à faire le retraitement. Rokkasho, l'usine de retraitement, c'est la même chose. S'il y a des plutonium, ce n'est pas complètement indifférent de la volonté politique de s'armer des têtes nucléaires.
Oui, bien sûr, on sait aujourd'hui qu'on passe très facilement du registre civil au registre militaire. Il suffit d'avoir 6 mois, 1 an, je pense, pour fabriquer, effectivement. Mais ce contexte est extrêmement important, je pense, à rappeler, puisque ça explique justement les limites qu'une société peut se poser, ou en tout cas les non-limites qu'elle peut justement se désigner dans des cas à la fois de zones géographiques, même aussi problématiques que ce qu'on vient de voir avec le Japon. Mais est-ce que peut-être à partir de là, on peut rebondir un petit peu sur justement ce qui est devenu ou ce que deviendrait la région de Fukushima à part entière? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire maintenant que par exemple l'agriculture, il ne faut plus en parler, la pêche, c'est fini? Est-ce qu'il y a toute une série de secteurs peut-être qu'il faut oublier, qu'il faut laisser derrière? Est-ce qu'il y a des zones mortes complètement? Au-delà de, je ne parle pas des zones de vocation, mais en termes d'activité, en termes de vie, et qu'est-ce que ça donne en ce moment pour la région elle-même, en fait?
De toute façon, à mon avis, la zone plus proche de Fukushima Daiichi, il est condamné pour des décennies, pour un siècle, pour plusieurs siècles. On ne sait pas trop bien, mais en tout cas, la région est complètement condamnée pour ne pas pouvoir vivre normalement, surtout des gens, agriculteurs, pêcheurs qui ne pourront pas travailler normalement pendant des années, ça c'est sûr. Et c'est la raison pour laquelle on trouve quelques paysannes, surtout de l'agriculteur bio, qui se sont suicidés, puisqu'ils ont compris qu'ils sont condamnés pour des décennies, quoi.
Et c'est une région de quelle densité, en fait, démographique? Est-ce que vous pouvez le rappeler?
Il y en a un qui est de Itate, donc à peu près 40 km de Fukushima Daiichi, et puis un autre qui est un peu plus loin, côté Nihonmatsu. C'est la région aussi assez contaminée. Leur lait, c'est un éleveur de lait qui était contaminé, donc c'est tellement désespéré de pouvoir reprendre. Le gouvernement dit qu'on va décontaminer, on va nettoyer, mais c'est le cercle infernal. On peut mettre des poussières un peu à gauche, mais cette poussière, il revient, ou bien on ne peut pas complètement débarrasser. Donc, n'est-ce pas, David, il n'y a pas de solution scientifique pour débarrasser la radioactivité.
Après la catastrophe, un an après la catastrophe, le Japon, il a, à mon avis, 3 enjeux majeurs. Il y en a 2 qui sont urgents et 2 à moyen terme. Les 2 urgences, c'est est-ce que l'évacuation est suffisante ou pas. Donc, il y a encore des gens qui vivent en territoire contaminé. Il y a un quartier de Fukushima, la ville de Fukushima qui s'appelle Watari, qui est très contaminé. Il y a Onami aussi qui est assez contaminé. Donc, il y a des gens qui vivent dans des zones encore où on pense qu'il faudrait évacuer. La limite que les autorités japonaises ont fixée pour l'évacuation est de 20 millisieverts par an. C'est la limite pour les travailleurs du nucléaire en France. Les travailleurs du nucléaire sont des gens qui sont sélectionnés, suivis médicalement. Parmi la population en général, il y a des gens qui sont plus fragiles et plus sensibles, en particulier les bébés, les enfants, les femmes enceintes. C'est pour ça que la limite grand public est de 1 millisievert. Et cette limite est une limite à ne pas dépasser, ce n'est pas une limite d'innocuité. Donc il a multiplié par 20 et toute la population de Fukushima est devenue des travailleurs du nucléaire. Les gamins vont à l'école avec un dosimètre comme un travailleur du nucléaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez choquant. Et la population qui n'a pas demandé à être victime de cette catastrophe ne comprend pas pourquoi il faut que tout d'un coup elle passe de la limite publique à la limite travailleur du nucléaire. Il y a alors quelle limite il faut mettre ? C'est un sujet qui est très difficile parce que évacuer, c'est terrible. Les gens perdent leur travail, sont mis dans des logements provisoires, ils perdent de dignité, certains deviennent alcooliques, stressés, enfin des familles divorcent. C'est une situation qui est très complexe. L'évacuation n'est pas forcément une bonne solution, c'est une solution terrible. Mais la radioactivité est encore plus terrible. Et à un moment, il faut choisir. C'est quoi le pire ? Partir ou la radioactivité ? Et où on met la limite ? C'est un débat énorme. 20 millisieverts actuellement, je suis convaincu que c'est trop. Mais où mettre la limite ? Franchement, je suis heureux de ne pas être politicien et d'avoir à choisir. Ça, c'est vraiment une situation qui est difficile. Je suis d'accord. Alors, où la mettre ? Par exemple, l'IRSN en France, je les ai interrogés. Ils ont dit clairement, nous, une situation similaire, on mettrait la limite à 10 millisieverts, la moitié des autorités japonaises. Et ils ont dit, c'est 70 000 personnes en plus à évacuer. Là, on en est à 150 000 personnes parties ou parties d'elles-mêmes et 70 000 personnes en plus à évacuer. C'est énorme. Et les États-Unis, par exemple, ils ont une norme qui est 20 millisieverts la première année, 5 la deuxième. Donc ça veut dire, là, à partir du mois de mars, aller évacuer encore des grandes villes. Cette fois-ci, on passe à plus l'évacuation de villages, mais l'évacuation de grandes villes. Et c'est aussi une situation qui est excessivement complexe à gérer. Donc ça, c'est un des grands débats. Où on met la limite ? Comment on indemnise les gens ? Qu'est-ce qu'on fait ? Un autre grand débat d'urgence, là, c'est on n'a plus que 3 réacteurs en fonctionnement sur les 54 au Japon. Au mois d'avril, 100% du parc nucléaire est arrêté. Est-ce que ces réacteurs vont redémarrer un jour ? Ils ne redémarreront pas tous. De toute façon, il y en a qui sont cassés. Ils ne redémarreront pas tous. Est-ce qu'ils en démarrent une dizaine pour faire la transition ? Ou est-ce qu'on ne démarre pas du tout et on fait la transition en serrant la ceinture d'un point de vue électricité ? Ça, c'est un grand débat auquel la société japonaise fait face. Mmh. Et après, à plus long terme, c'est ces terrains contaminés. Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, est-ce qu'il y a des endroits qu'on peut décontaminer ? Donc, il y a des endroits... Toutes les cours d'école de Fukushima ont été raclées. Donc, sur 5 cm, c'est de la terre battue, la terre a été enlevée, elle est mise soit au fond de la cour, soit enterrée au fond de la cour. Et de fait, la radioactivité a bien baissé dans les écoles. Les routes goudronnées, les caniveaux ont été nettoyés quand il y avait de la boue contaminée. Donc il y a eu des points chauds qui ont été enlevés. Ça, on arrive à faire. Mais quand on a une maison qui est contaminée, c'est le béton. Le césium s'est incrusté dans le béton. On ne peut pas l'enlever. Dans la terre cuite, c'est pareil. Puis après, il y a tous les terrains agricoles. Enlever les 5 cm, c'est la partie la plus fertile des terrains agricoles. Donc ce que là, le gouvernement prévoit, c'est un labour profond. Donc enterré sur 30 cm. Donc on a deux solutions face à la contamination. Soit on essaye de l'enlever, soit on essaye de la diluer. Donc pour les terrains agricoles, en ce moment, les recommandations du ministère de l'Environnement, qu'il est en train de tester, c'est le labour profond.
C'est ce
Donc,
qu'on avait vu à Tchernobyl aussi ?
Il y a eu des essais aussi à Tchernobyl qui n'ont pas été concluants aussi. Mmh. Après, Fukushima, c'est 70% de forêt et de montagne. Donc l'eau ruisselle, il y a des endroits qui ont été décontaminés, il y a eu des fortes pluies, c'était de nouveau contaminé. Donc on ne sait pas gérer tout ça. Décontaminer toutes les forêts, enlever les 5 cm de sol de la forêt, c'est là où il y a toute la vie dans les forêts, qui nourrit tous les oiseaux, la chaîne. C'est une catastrophe écologique si on enlève toute la surface des forêts. Et si on ne le fait pas, ça va revenir. Donc là, il y a un débat à long terme. C'est qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des zones où je pense qu'il faut dire clairement que les gens ne rentreront pas. Et ça, le gouvernement japonais peine à le dire. Et pour que les populations fassent leur deuil et se préparent à vivre, commencer une autre vie, réfléchissent à une autre vie et qu'ils arrêtent d'espérer de rentrer. Il faut le dire clairement qu'il y a des endroits où les gens ne rentreront pas. Et là aussi, c'est vraiment le débat à moyen terme auquel doit faire face le Japon dans cette situation post-accidentelle.
Parce que on peut évacuer, mais il y a aussi la question des compensations, du relogement des gens.
Oui, c'est... Bien sûr. Mais à un moment, il faut choisir. Ne pas choisir, ça peut être pire. Donc il y a des gens qui sont dans des logements provisoires en se disant « je vais rentrer un jour ». Ils sont dans des mobil-homes. Donc là aussi, il y a des aspects extraordinaires. Il n'y a plus personne dans des gymnases actuellement au Japon. Moins d'un an, chaque personne est relogée. Il y a eu jusqu'à 470 000 personnes dans des gymnases avec le tsunami. Il y a eu 3 catastrophes simultanées. Un séisme d'une dimension exceptionnelle, un tsunami exceptionnel et 3 réacteurs nucléaires. Donc le pays a fait face à ça. Et il a réagi de manière globale, de façon extraordinaire. Je pense qu'aucun pays au monde n'aurait réussi à reloger 470 000 personnes en moins d'un an. Donc il y a des choses où le Japon a été extraordinaire. Les débits du tsunami, ils ont tous été empilés, triés le bois d'un côté, le béton de l'autre. Il y a des choses où le Japon a fait des prouesses exceptionnelles. Mais pour le tsunami, on sait que les gens ils vont revenir. Pas forcément au même endroit, peut-être plus en hauteur, il faut repenser. Mais les gens savent qu'ils vont revenir un jour dans leur village qui sera réaménagé différemment parce qu'il faut le protéger face au prochain tsunami. Mais on peut revenir. En revanche, donc on peut accepter de vivre en mobilhome 2-3 ans. Il fait froid en ce moment, hein. Fukushima, ouais,
ça,
neige,
ça peut être extrêmement difficile de survivre comme ça dans un endroit comme, complètement inhabitué et complètement clos et complètement pas très pratique de vivre. Il n'y a pas de convivialité. Ils sont isolés. Donc psychologiquement, ils ont des traumatismes extrêmement importants. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont morts à cause de ça, déjà.
Et donc, pour les gens des territoires contaminés, s'il y a des zones où ils ne rentreront pas, il vaut mieux leur dire « vous ne rentrerez pas » et essayer de refaire une vie ailleurs, en les aidant à faire une vie ailleurs, que de leur donner de l'espoir. Et ils attendent, ils ne savent pas trop « est-ce que je reste dans mon biome ? Est-ce que je vais refaire ma vie ailleurs ?» Cette situation, elle n'est pas normale. Il faut que leur dire. Et
le gouvernement n'arrive pas à dire clairement. C'est ça le problème aussi.
Peut-être, avant de revenir sur les questions d'information qu'il y a eu et qu'on peut espérer qui vont s'améliorer au Japon, on vous propose un petit intermède musical.
Concernant l'information du public, on sait qu'il y a eu quand même une vague d'opacité sur la question du côté notamment du gouvernement, mais du côté même de TEPCO qui a eu par ailleurs dans le passé des problèmes justement de ce type, notamment avec une affaire de falsification par exemple de documents officiels liés à la sûreté, etc. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus pour savoir un peu plus précisément justement comment les gens ont été informés d'une part, du danger sur place, de ce qui se passe sur place, parce que ce qu'on vient de dire relève, enfin, en tout cas, met en évidence une situation d'exception, pratiquement ingérable, etc. Dans quelle mesure les Japonais en sont tenus au courant, d'une part, dans quelle mesure les victimes plus proches, en fait, de la situation en sont tenues au courant, est-ce qu'ils sont informés, est-ce qu'ils savent comment, justement, gérer la situation au quotidien, quels sont leurs moyens d'action là-dessus, est-ce qu'il y a aussi, peut-être, voilà, maintenant, des personnes un peu en dissidence à l'intérieur même du système, qu'il s'agisse du côté des journalistes, d'autres.
Il y a tellement de désinformations, il y a vraiment très peu d'informations très fiables, et le gouvernement il manipule, TEPCO évidemment ils font des mensonges, ils disent pas toujours la vérité, que on manque donc la véritable information et que le gouvernement ne donne pas tout de suite d'une solution équitable pour se protéger notamment. Donc il y a des associations de femmes, de mères de Fukushima qui se révoltent. Actuellement, ils ont créé un village de tentes devant le ministère de l'économie et de l'industrie pour protester contre non-prise de mesures nécessaires, et ils ne sont pas vraiment informés, ils n'ont pas été indemnisés correctement. Donc tout ça, c'est dans la situation extrêmement précaire et difficile. Je crois que donc le village, Monsieur Edano a ordonné l'évacuation de ce village, mais finalement ils résistent. Ils ont des soutiens. Je crois que ça va recommencer la contestation, surtout comme nous allons avoir le premier anniversaire de l'accident autour de 11 mars. Il y a sûrement beaucoup de mobilisation, et puis il y a aussi des révoltes des jeunes. Évidemment, ils sont pas majoritaires, mais enfin des petits groupes de jeunes, collectifs de jeunes, Shiro Tonolan de Koenji à Tokyo, ils sont capables de faire mobiliser 10 000 personnes, tout ça. Et Monsieur Oe Kenzaburo, prix Nobel de la littérature, ils ont appelé aussi de se mobiliser pour le premier anniversaire. Donc il doit y avoir d'ici quelques temps des grandes mobilisations, à mon avis.
Et au-delà de la protestation, il y a aussi apprendre à vivre dans une situation complètement nouvelle. Donc c'est par exemple moins d'électricité. Donc l'été dernier, il y avait déjà 70% du parc, et les pics de consommation sont en été parce qu'il y a 35 degrés et 80% d'humidité, donc c'est la climatisation. Donc il y a des entreprises qui ont fermé en semaine, qui ont rouvert le week-end, il y avait moins de trains. Il y a des gens, ils ont appris à économiser l'électricité et qui se sont rendus compte que finalement, ils gaspillaient. Donc c'est un mouvement, ils se sont dit, ah ben, peut-être, ça c'est une lame de fond aussi, qui n'est pas mesurable. C'était mesurable dans le fait qu'il y a eu une baisse de la consommation qui a été sans coupure. Donc l'été s'est bien passé avec 70% du parc arrêté. Et il y a des gens qui ont compris qu'il y avait énormément de gaspillage et que s'ils ne veulent pas de nucléaire, il faut qu'ils fassent des efforts. Donc ça, tout ça, c'est une lame de fond qui est difficilement mesurable, autre que par la consommation électrique. Et puis après, il y a aussi des gens qui sont un peu hors du lot par leur profession. Par exemple, les médecins, les scientifiques, comment ils ont réagi. Donc là, c'est très contrasté. Par exemple, à l'hôpital d'Iwaki, qui est une ville à une cinquantaine de kilomètres, je crois, de la centrale, à l'hôpital municipal, il manquait 30% des médecins le premier mois de la catastrophe. Il y en a, et les infirmières aussi, ils sont sauvés des peurs de la radioactivité, alors qu'il y avait plus de victimes du tsunami et tout ça. Donc il y a des médecins qui sont partis, mais en revanche, il y a aussi d'autres médecins qui ont monté des réseaux d'aide, qui vont régulièrement en Fukushima ausculter les gens gratuitement. Donc ça va dans les deux sens. Et chez les scientifiques, il y a aussi le même mouvement. Il y a des scientifiques qui apparaissent à la télé pour se faire les porte-parole du gouvernement, dire « tout va bien, ne vous inquiétez pas ». Le pire, c'est le professeur Yamashita qui est devenu une célébrité. Il a dit que si on sourit, la radioactivité ne nous atteint pas. Donc il y a ces scientifiques-là, mais d'un autre côté, il y en a qui ont démissionné parce qu'ils ne pouvaient pas parler librement. Ils ont démissionné pour aller faire des mesures. Il y en a qui ont rué dans les brancards dans leur institution pour pouvoir continuer les mesures, et en particulier l'Institut de météorologie qui mesurait la radioactivité depuis 1957 pour un suivi. Et à partir du 31 mars, dernier jour de l'année fiscale au Japon, il n'a plus de budget pour mesurer la radioactivité.
Et puis ce qui est important à dire aussi, que concernant la question de la radioactivité sur les alimentations, le gouvernement n'a pas encore réussi à mettre en place le système de mesure systématique sur les alimentations. Donc il n'y a que des citoyens qui essayent de se mobiliser, s'organiser. Par exemple, un certain nombre de coopératives de consommateurs, ils ont créé un labo de mesure en collaboration avec des citoyens ou des scientifiques. Par exemple, à Iwate, Fukushima, un laboratoire de mesures citoyennes qui ont été créés grâce à l'aide de CRIGRAD, qui est venu aider. Puis il y a d'autres petits labos qui ont été installés. Il y en a actuellement 9 petits labos citoyennes. Et s'il n'y a pas de mobilisation des citoyens, on ne sait pas combien de radioactivité qui se trouve dans des alimentations, dans le corps, etc., etc. Donc ça c'est une question de mesure très importante. Et puis il y a aussi une bataille scientifique entre ceux qui prennent que la radioactivité moins de 5 millisieverts n'a pas d'importance, comme M. Yamashita, et puis il y a d'autres scientifiques qui disent qu'il y a quand même des phénomènes extrêmement négatifs sur les faibles doses. Et donc, il y a une bataille même internationale, puisque AIUA ou CIPR disent que faible dose, ce n'est pas une question importante. Donc, il y a une bataille entre les scientifiques qui disent qu'il faut vraiment faire une étude épidémiologique de long terme qui n'ont pas été faites à Tchernobyl. Et donc, à cette fois-ci, à Fukushima, il faut faire absolument. Mais est-ce que les autorités de sûreté ou le ministère de la Santé, est-ce qu'ils sont prêts à s'investir dedans ou pas? Et puis aussi l'Organisation mondiale de la santé aussi. Hein.
Donc en ce moment, cette étude épidémiologique est juste en discussion en fait.
Il y a déjà un suivi. Pour les 2 millions d'habitants de la province de Fukushima, ils vont être suivis, les enfants tous les 2 ans et les adultes tous les 5 ans pendant toute leur vie. Donc ça, c'est déjà voté et c'est déjà enclenché. Ils ont déjà commencé à faire des mesures. Alors après, est-ce que le suivi est correct ou pas? Ça, c'est l'autre question. Est-ce que les mesures sont suffisamment fines ou pas? Donc ça, on peut discuter. Est-ce qu'on va regarder les bonnes choses? Est-ce qu'on va regarder les bons paramètres? Donc c'est très compliqué. Mais il y a déjà enclenché un suivi. Il y a déjà des centaines de milliers d'enfants qui ont été suivis. Donc je voudrais revenir sur l'accès à la mesure. Donc il y a tous ces corps. Donc par exemple, il y a aussi un collectif d'universitaires qui a fait une décartographie très précise de la région. Et ils ont fait ça sur leur temps libre quasiment. Donc il y a aussi un mouvement d'avocats qui aident gratuitement les victimes pour obtenir des compensations. Donc il y a tout cet élan de solidarité qui existe de la part des populations. Après, en plus de l'aide aux gens réfugiés du tsunami, la Croix-Rouge japonaise a reçu des sommes énormes de solidarité internationale, mais aussi à l'intérieur du Japon. Donc il y a cet élan de solidarité. Et dans le cas de la catastrophe nucléaire, il y a effectivement l'accès à la mesure qui devient primordial, parce que les autorités ont des labos de mesure, ont des experts pour décider. Les populations ont besoin de labos de mesure et d'experts pour décider. Et la CRO a déjà créé 2 labos au Japon et est en train d'en créer un troisième. Et on a mis en place un réseau aussi de laboratoires indépendants pour avoir la qualité, parce que le premier labo dont parlait Colline, les premiers résultats qu'ils mettaient en ligne là, avec la CRAD, c'était du n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas été formés à la mesure. Et ça, c'était un vrai problème, parce que du coup, les autorités n'avaient pas confiance en ce qu'ils faisaient, parce qu'il n'y a pas eu cette... Donner un appareil aux gens ne suffit pas, il faut aussi les former. Et il n'y a pas eu la formation. Et donc ça, c'était un vrai problème. Donc notre démarche, elle est complètement différente, c'est d'arriver... de donner le laboratoire, d'aider le laboratoire de mesure, mais aussi la formation et de mettre la qualité. Et c'est-à-dire pour que les mesures soient... On ne puisse pas les contester. Il faut que les gens aient confiance, il faut que les autorités aient confiance si on veut influencer la politique des des autorités. Donc ça, c'est un enjeu énorme pour un labo indépendant. Et donc on reçoit des échantillons, par exemple, qui ont été mesurés dans des labos japonais, qu'on fait une contre-expertise en France, puis on vérifie est-ce qu'on a les mêmes niveaux ou pas.
Mm-hmm. Bah, c'est
donc
une bonne chose.
Ce réseau-là, on est en train de monter ce réseau-là, et on a collecté de l'argent aussi pour créer... Alors il y a deux types de détecteurs. Il y a des très simples NAI, ce que tout le monde a acheté dans tous les petits labos au Japon, qui sont très pertinents après un accident, parce qu'ils mesurent très rapidement. Mais parfois, ils ne sont pas fiables. Et donc on est en train de monter un labo beaucoup plus fiable, justement pour venir en soutien à tous ces petits labos et les aider. Et s'ils ont un échantillon bizarre, ils l'envoient là-bas pour une contre-expertise au lieu de l'envoyer en France, pour qu'on ait une situation qui soit pérenne sur place, une expertise citoyenne pérenne sur place.
C'est un travail qui se fait en relation avec la France et également avec un mouvement international plus large ou pas?
Ben, ça dépend. La Croix a monté le labo de Greenpeace Japon. Donc là, c'était un financement international, a aidé Fukuro no Kai, qui est une petite association, à monter son labo. Et on a servi de conseil à de nombreuses autres initiatives. Ça peut être du privé, par exemple une coopérative de magasins bio. Ça peut être un labo. Il y a déjà l'équivalent de la Confédération paysanne au Japon avait déjà un laboratoire citoyen de mesure OGM, pesticides. Et ils ont reçu de la CGT française l'argent pour acheter des détecteurs. Et on a fait du conseil scientifique sur derrière comment utiliser. Et je les ai rencontrés l'été dernier, par exemple. Donc c'était soit du conseil, soit la fourniture. Et le labo qu'on veut monter vraiment plus puissant que la moyenne pour aider les petits labos répartis, là, on a bénéficié, par exemple, d'un financement de 60 000 euros de la région Île-de-France. Donc, parce que ça coûte très cher. Donc ça dépend un peu. Il y a différents niveaux. Et on est en train de mettre en place toute une structure pour que ça tienne vraiment à long terme. Et ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas cette reconnaissance des autorités. On a écrit, par exemple, aux autorités japonaises dès le départ pour leur expliquer notre démarche. Voilà ce qu'on veut mettre en place. Et ils ne nous ont jamais répondu.
Parce que normalement, ce genre de travail, il faut que ce soit le pouvoir public doit faire.
Absolument.
Mais pourquoi des citoyennes sont obligées de faire eux-mêmes, de collecter l'argent pour investir, acheter des machines extrêmement chères? Et puis de mesurer avec leurs petits moyens, c'est pas évident.
Non, c'est pas évident. Mais de toute façon, les autorités, même si elles investissaient, les gens n'ont plus confiance après la catastrophe parce qu'elles se sont trompées sur la sûreté du réacteur. Elles se sont trompées. Il y a eu quelques scandales financiers, alimentaires. Il y a eu le bœuf, il y a eu le riz. Là, donc parfois, il y a des surprises.
Ces scandales, le bœuf et du riz?
Béton.
Il y a du béton contaminé. Là, même récemment, à Okinawa, qui est l'île la plus éloignée, il y avait des nouilles contaminées. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des cendres et le bois venait de Fukushima. Et donc, les nouilles étaient contaminées à l'autre bout du pays par des moyens complètement détournés. Donc, il y a des surprises dans l'alimentation. Ce n'est pas facile de tout contrôler. Donc, de toute façon, même si les autorités investissaient plus, les gens n'y croiraient pas et il y a besoin de ce contrôle indépendant citoyen derrière. On n'y échappe pas dans une situation post-accidentelle.
Et à partir de là, est-ce qu'on peut en fait dire quelques mots sur justement, est-ce que le Japon est capable de sortir du nucléaire? On sait que l'été dernier, quand même, le Japon a pu économiser de 20%, c'est-à-dire avec une sobriété énergétique importante. Déjà, en fait, sur un plan concret, matériel, énergétique, est-ce que ça s'avère possible? Mais aussi sur un plan politique, qu'est-ce qu'on peut dire justement du mouvement anti-nucléaire japonais à l'heure actuelle? On sait qu'en septembre, il y a eu une mobilisation qui a réuni 60 000 personnes. Est-ce qu'il y a une force contestataire suffisamment légitime et audible qui pourrait mener en fait à ce que les réacteurs ne soient plus en fait remis en marche à partir d'avril ou même peut-être des perspectives de référendum? Mais est-ce qu'on peut dire quelques mots là-dessus?
Alors juste une précision, le Japon, il est dans le nucléaire jusqu'au cou pour des décennies avec les déchets et la radioactivité. Donc maintenant, est-ce qu'il arrête ses centrales ou il n'arrête pas ses centrales? Ça, c'est la question. Mais de toute façon, il ne sortira pas du nucléaire.
Ça, on le sait.
C'est important à rappeler.
C'est-à-dire que même si on décide aujourd'hui,
on ne
pourra pas abandonner comme ça, comme si on mettait dans une poubelle. Mm-hmm. C'est pas possible. Donc, il faut gérer d'ici dans des décennies. surtout des Fukushima Daiichi et réacteurs accidentés. Combien de temps il faut, ça c'est une grande question, puisque de toute façon, le corium, on n'a pas de moyen de traiter. Donc pendant combien de temps il faut attendre, combien de temps pour gérer, ça c'est vraiment le temps qu'il faut.
Donc maintenant, donc c'est ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, c'est un des grands enjeux pour le Japon, c'est est-ce qu'il arrête les centrales en Bon, elles vont être toutes arrêtées en avril. Est-ce qu'il en redémarre ou pas? C'est un des grands enjeux à venir du Japon. Donc il peut s'en passer, évidemment. Il peut s'en passer avec une période difficile pendant les périodes de pointe, c'est-à-dire quand il y a des fortes consommations. Mais même en France, avec 58 réacteurs, on a des problèmes au moment des pointes. On l'a vu récemment. Donc, en plus, contrairement à l'Europe, c'est qu'il n'est pas connecté aux pays voisins. Donc il est complètement autonome. Et en plus, stupidité, je ne sais pas d'où ça vient, mais peut-être Colline pourra dire, il y a la moitié du pays à 60 Hz et la moitié à 50 Hz. Mmh. Donc ce n'est pas facile de transférer l'électricité d'un bout à l'autre. Donc il est dans une situation avec des fiefs, mais c'est un des grands enjeux à venir. Mais techniquement, il peut s'en passer, évidemment.
Et politiquement, Colline ?
La volonté de la population actuelle, je crois qu'ils sont contre le nucléaire. Ils veulent sortir du nucléaire. Donc, est-ce que le mouvement social et anti-nucléaire puisse faire suffisamment de pression auprès de pouvoirs politiques pour qu'ils prennent la décision politique ? Ça, c'est un enjeu à voir d'ici dans quelques temps. Quelques mois, dans un an, est-ce que le gouvernement japonais déciderait réellement d'arrêter, de sortir du nucléaire, ou bien avoir une période de transition longue et de décider petit à petit à supprimer des réacteurs. Ça, c'est un enjeu. Et puis, ça, c'est aussi lié avec la volonté politique par rapport à l'armement nucléaire aussi. Hein. Donc, c'est pas seulement une question énergétique. Ça, c'est aussi la volonté de pays pour garder la souveraineté. Et est-ce que ces leaders politiciens voudraient garder la technologie de fabrication de têtes nucléaires ou pas ?
Après, en termes d'initiatives citoyennes, pour les deux grandes villes du pays qui sont Tokyo et Osaka, les citoyens ont récolté suffisamment de signatures pour exiger un référendum d'initiative populaire sur la question du nucléaire. Donc ça aussi, c'est sans précédent au Japon. Le maire d'Osaka a été élu avec un programme anti-nucléaire. Et la ville d'Osaka est le premier actionnaire de la compagnie d'électricité avec 9% des parts. Donc là aussi, il y a une situation politique qui est quand même assez nouvelle. Alors est-ce qu'ils vont gagner ou pas ? Je ne sais pas. Mais il y a quand même des signes concrets qui montrent qu'il y a un changement profond vis-à-vis de cette question au Japon. Mais heureusement, la question c'est comment est-ce qu'on peut encore être pour le nucléaire au Japon avec ce qui s'est passé ? C'est l'inverse qui n'est pas compréhensible pour moi.
Ce référendum populaire, ça va se tenir ?
Oui, ça va se faire, puisqu'ils ont eu suffisamment de signatures. Donc les politiques, ils sont obligés de le faire. Malgré que ces maires sont très nationalistes, conservateurs.
Mais, pense qu'à Osaka, ça va être plus facile, parce que justement, les autorités locales sont en faveur d'un arrêt du nucléaire, alors que le gouverneur de Tokyo est plus proche de notre Le Pen à nous que... Et donc, je pense que ça sera plus difficile à Tokyo. Mais ça dépend. Le contexte politique peut changer. Mais pour le moment, je pense que ça sera plus facile dans le Kansai qu'à Tokyo.
Bah, on vous remercie beaucoup, David, Colline, Céline aussi.
Et Céline aussi.
Je voulais juste terminer en vous lisant des petits haïkus de poètes japonais qui ont pris la plume dans un recueil qui s'appelle « Après Fukushima ». Et qui nous disent juste ce que c'est que vivre avec la radioactivité, et qui nous invitent aussi à reconnaître l'inhumanité du nucléaire. Faut se battre, mais on ne peut pas se battre. Neige du jour du nirvana. Un jour de tonnerre, au printemps, j'ai ajouté à mon vocabulaire cette unité, le sievert. Et dans l'écho des feuilles, une voix résonne sans cesse, reconnaissez vos faiblesses.